Bienvenue à tout le monde, à ceux qui nous visitent. On sait qu'il y a des gens qui visitent leurs parents ailleurs, mais il y en a aussi qui visitent ici. Alors, bienvenue, ceux qui nous visitent, peut-être même pour la première fois. J'en profite pour souhaiter bonne fête, papa. Comment est-ce qu'il y a de papa ici? Je veux vous entendre. Là, levez la main, là, je veux vous voir. Là. Hein? C'est bien, plusieurs papas. Alors, bonne fête. Merci pour tout ce que vous faites. C'est vraiment bien. On a des nouveaux qui nous visitent, puis on a un beau petit couple qui nous visite ce matin. Hein? Alors, regarde, on veut féliciter encore une fois Gaston et Daniel qui arrivent d'un beau voyage de noces. Merci d'avoir mis ces photos-là sur Facebook. Ça nous a permis de vous suivre un peu. On voyageait un peu avec vous autres, avec des vidéos. C'est magnifique, les réseaux sociaux. Ce matin, j'ai pris mon cellulaire pour prendre une photo de toute la gang qui chantait. Puis, j'ai remarqué que ma fille Katia, qui reste à Fermont, imaginez, dans le Grand Nord, à 20 heures d'ici, juste à côté de Labrador, m'avait envoyé un beau petit mot d'amour en me souhaitant bonne fête. Et alors, c'est incroyable, les réseaux sociaux, c'est vite. Alors, on apprécie la technologie. Alors, effectivement, c'est la fête des pères et on veut s'arrêter ce matin certainement sur un des sujets très importants, la famille. La Bible accorde beaucoup, la parole de Dieu accorde beaucoup d'importance sur la famille. C'est vraiment la clé. Et on a besoin de passer du temps avec nos enfants. Vous savez comment c'est, hein? Nos enfants, on veut passer du temps avec eux, mais on se demande est-ce que c'est du temps de qualité que ça prend. On entend ça maintenant de plus en plus. Le temps de qualité, ah, j'ai pas besoin de passer tellement de temps avec eux. En même temps que j'ai du temps de qualité avec eux, il y a des débats là-dessus. On veut regarder ça ce matin, mais c'est tellement important de passer du temps avec nos enfants. Et vous savez ce qui arrive, hein, c'est que les enfants vieillissent, puis à un moment donné, et c'est vrai aussi à l'adolescence. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que certains papas sont mal à l'aise avec leur adolescent, avec les ados. Puis là, on dirait qu'il y a comme une sorte de distance qui s'installe. Et moi, en tout cas, ça a été l'expérience chez mes parents. Je pense que mon père ne savait pas trop comment me prendre. C'est vrai que j'avais un caractère assez spécial dans mon cas, mais c'était pas vrai dans le cas de Lise, et pourtant, son père, c'est la même chose. On dirait que, je sais pas si c'est mal à l'aise ou quoi, mais enfin, c'est important. Puis on va voir, il y a une étude récente d'ailleurs qui a été menée par l'Université d'État de Pennsylvanie, qui a été publiée dans un journal, ça s'appelle le Journal sur le développement de l'enfance. Ils ont mené une étude auprès de 200 familles, et ça a été mené pendant quand même une bonne période, on parle de 7 ans environ. Et pour sortir, ils ont découvert des principes importants sur l'éducation. Alors, c'est assez récent, alors, ça vient de sortir, il n'y a pas très longtemps. Maintenant, il y a des choses qu'on savait déjà, évidemment, c'est sans surprise que l'étude a démontré que les enfants passent de plus en plus de temps en tête-à-tête avec leurs parents à mesure qu'ils se rendent à l'adolescence. Mais ces moments seuls avec maman et papa vont tranquillement diminuer à mesure que le jeune va atteindre les âges autour de 15 ans. Il y a vraiment une distance qui prend place. Pourtant, l'étude a démontré que de l'importance de passer du temps avec les enfants, même au niveau de l'adolescence. Ça a été effectué pendant quand même une bonne période. C'est une étude longitudinale, qui veut dire assez long. Et ça a montré, et qui en a surpris quelques-uns, que les ados ont particulièrement besoin de passer du temps avec papa. Particulièrement avec papa. Oui, évidemment, avec maman, c'est important, mais ça fait ressortir le besoin d'avoir vraiment un temps intime avec papa. C'est une saison de vie particulièrement importante chez l'adolescence. Et pourtant, les papas, les pères ne sont pas souvent à l'aise avec les adolescents. Mais il faut faire l'effort, il faut se faire violence un petit peu, il faut passer à travers cette gêne qui semble s'instaurer là. Il faut vraiment y aller, pas se gêner et se faire insistant de s'approcher de nos enfants à l'adolescence. Voici ce que dit l'un des chercheurs. Nos recherches montrent que les adolescents qui passent du temps avec leurs parents, surtout avec leur père, reçoivent d'importants bénéfices dans leur croissance et ces moments passés avec papa contribuent, favorisent leur apprentissage. On a découvert, poursuit-il le chercheur, une nette amélioration des compétences sociales chez les adolescents qui passent du temps avec leur père. Par exemple, une amélioration aussi de leur sentiment de mieux-être. Alors, ça nous rappelle simplement l'importance de passer du temps avec nos enfants. Puis là, on se pose la question parce que j'entends ça. J'entends, des fois, des gens vont me dire, ben, c'est-tu off? J'ai d'autres choses à faire à la maison, j'ai pas vraiment le temps. Ce qui est important, dans le fond, c'est passer du temps de qualité. T'sais. Alors, cette question-là ressort. Est-ce que c'est vrai, ça? Ça, c'est une affirmation qu'on va entendre, le temps de qualité. Est-ce que c'est le temps qui est important? Est-ce que c'est la quantité? Est-ce que c'est vraiment important, la quantité? Est-ce que c'est juste la qualité? Qu'est-ce qui est important, la qualité ou la quantité? Est-ce que ça prend juste un ou juste l'autre? Eh bien, on a besoin des deux. Effectivement, nous avons besoin des deux. On a besoin du temps de qualité-quantité, absolument. Ça prend les deux. Avec les années, on a découvert que d'avoir que du temps de qualité n'est pas efficace. Ça prend non seulement du temps de qualité, mais ça prend aussi de la quantité. Il faut prendre du temps avec nos enfants. Alors, on a besoin de ce temps de qualité-quantité. Donc, on va regarder ça ensemble. Ça prend les deux. Mais c'est quoi ça? Là, tu vas demander, et on se demande, ça veut dire quoi? Ça a l'air de quoi, ça, cette affaire-là? Du temps de quantité-qualité. Quantité, on peut, ouais, OK, on peut quand même comprendre, là. Mais qualité, on veut regarder c'est quoi. Moi, j'aimerais vous proposer 4 activités à planifier avec vos enfants pour avoir ce temps de qualité-quantité. D'accord? 4 activités, on va regarder ça, qui vont nous aider à tisser vraiment une relation qui sera riche et profonde avec chacun de nos enfants. Et je m'adresse en particulier au papa, ici, là. Ne mettez pas ça sur ce moment-là. Là, on veut regarder ça pour nous-mêmes. Nous, les papas, ce matin, on se concentre sur la fête des pères. On veut se concentrer sur papa, sur notre rôle. On veut grandir dans notre rôle de père. Et on s'arrête et on s'adresse à vous. Et en passant, il n'y a jamais trop tard pour commencer. Parce que des fois, ça arrive, hein, les années passent et puis ça, les années, les enfants grandissent. Puis à un moment donné, on a l'impression, bon, les années ont passé, on n'a rien vu passer, puis là, on pense que c'est trop tard. C'est jamais trop tard. D'ailleurs, il y a un proverbe chinois qui dit ceci, j'ai bien aimé, un livre que Jean-Louis nous a donné pour lire pour un ministère des hommes. Et dedans, il y avait un proverbe chinois, il est vraiment bien aimé ça. Il dit, il n'est jamais trop tard. Il dit, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. D'accord? Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Et le proverbe chinois fait ressortir, il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, c'est le temps. Ça, c'est le deuxième meilleur moment. Et dans le fond, c'est toujours le bon moment de commencer aujourd'hui. Alors, les 4 activités à faire ensemble, papa et les enfants, qui vont nous donner vraiment un temps de qualité-quantité. D'accord? On veut commencer ensemble par le premier, qui est travailler avec les enfants, faire des projets avec eux, des activités avec eux. Si on veut se rapprocher de nos enfants, il faut vraiment faire des projets avec eux. On a besoin de travailler ensemble, faire des choses, faire des devoirs ensemble. Et ça, c'est particulièrement parfois, ça peut être, pas tout le temps, mais ça peut être tendu. Il y en a qui ont comme une habileté à faire des travaux, faire des devoirs, ça va assez simple, assez vite. Tu t'assois avec eux, puis ça coule, c'est comme, mon Dieu, OK, ils sont pas mal vite, ça roule. D'autres enfants, tu sais, c'est comme, il y a une approche différente. Au niveau pédagogique, c'est différent. La façon d'acquérir la connaissance, c'est un peu plus, il y a un défi qui est là. Donc, il faut prendre du temps. Des fois, il faut mettre faire une leçon d'objet, une image, essayer d'acquérir le concept. Que ce soit en mathématiques, en français, tout ça, il faut prendre du temps. Et parfois, c'est frustrant parce qu'un enfant s'impatiente. Hein? Moi, j'ai découvert à quel point, puis papa s'impatiente, j'ai découvert à quel point j'étais impatient en faisant des devoirs avec les enfants. Ça a fait sortir, moi, j'ai vu qui j'étais vraiment. T'sais. Quand tout va bien autour, là, c'est pas trop pire, tu peux être patient, mais quand il y a un petit peu de tension, tout ça, tu t'aperçois, oh, bien, regardons ça, il y a quelque chose que j'aime pas en moi là, qui ressort. Et ça prend du temps. Et on veut avoir ces moments-là avec nos enfants, faire des travaux, des projets ensemble. On peut les aider à organiser une fête. Des fois, les enfants ont une fête, veulent inviter leurs amis à l'école. Pourquoi ne pas s'impliquer, se mouiller? Puis oui, papa, on fait des dessins, tout ça, on bricole avec les enfants et c'est bon. C'est bon de s'impliquer, se mouiller. Alors, plus on s'implique dans leur quotidien, de façon pratique, là, les projets, plus on va souder les relations quand c'est fait dans l'amour. Et ça, nos enfants ont besoin de nous voir, travailler avec eux, faire des activités avec eux autres, se mouiller, s'impliquer. Maintenant, pour certains, c'est plus naturel que d'autres. Mais pour d'autres, ils gardent une certaine distance, mais il faut pas. Il faut vraiment se mouiller. Il faut faire l'effort. Pour certains, ça demande un effort. Mais il faut le faire, cet effort-là. Ça vaut le temps qu'on s'investit. Vraiment, là, c'est très, très gagnant. Alors, c'est la première activité, faire des projets ensemble. Une autre activité qui va nous donner vraiment un temps de qualité et quantité, c'est de jouer avec les enfants, avoir du temps avec eux autres, avoir du plaisir avec eux, jouer avec eux autres. On a besoin de s'amuser, jouer ensemble, et c'est la façon de faire partie de leur vie, de leur quotidien. Et ça va vraiment contribuer à nous unir, à nous approcher ensemble. Il y a toutes sortes de jeux. Moi, il y a une affaire que je faisais avec mes enfants, puis ça rendait ma femme très nerveuse. C'est le tiraillage. Chamaillage. J'aimais ça, me tirailler avec les enfants. Tu sais, t'es prêt, puis t'es pitch, là, tu sais, c'était vraiment du plaisir. Ma femme était nerveuse. Elle dit, puis je comprends, parce qu'elle avait peur qu'il se blesse, tu sais, qu'il y avait une blessure. Puis des fois, ça pouvait évidemment, comme, tu sais, tu joues, là, hein? C'est comme, ça peut être rough. En même temps, j'ai réalisé au fil des années, j'ai appris quelque chose. Au fil des années, j'ai appris que on a une vision différente entre chaque membre de la famille. On a une vision différente. Puis je respecte ça, mais j'ai compris ça. Par exemple, tu sais, le jeu, tu pitches ton enfant dans les airs, tu as vu une photo tantôt, là. Tu pitches les enfants dans les airs, hein? Moi, je le sais ce que vous pensez. Les gars disent « Yeah! » Les femmes « Huh! » Hein? C'est vrai? J'ai compris ça au fil des années. Alors, regarde bien, j'ai compris ça. Ce que papa voit, d'accord? On pitche l'enfant. Ça, c'est la vision du père. La vision de l'enfant. La vision de maman. C'est-tu vrai? Hein? Oui, oui, oui. J'ai réalisé ça au fil des années. Parce que pour moi, c'était jamais assez haut. J'essayais encore plus haut. J'essayais. Puis ça prenait de plus en plus de secondes à ce qu'il revienne dans mes bras, là. Mais ma femme, c'était toujours haut. Mais il me semble, pour moi, c'était pas haut. Enfin. On comprend? C'est ça. J'ai compris ça au fil des années. Alors, là, et je respecte ça, absolument. Il y a comme l'équilibre, hein? C'est sûr. Il m'en est même, en tout cas, je n'irai pas là-dedans. Mais l'une des critiques qu'on va entendre aujourd'hui, et ça, on comprend, c'est une question de blessure et de ça, faire attention. Ça, je comprends ça. Mais là, il y a une tendance, il y a un courant qui a commencé à circuler que, sais-tu, se chamailler avec ses enfants, se tirailler avec les enfants, ça va faire des enfants violents. Puis ça a commencé à courir, là. Ça a commencé aux États-Unis surtout, et ça commence là, puis ça revient ici, évidemment. Savez-vous que 40% des arrondissements scolaires ont enlevé aux États-Unis la période de récréation? Parce que deux raisons, les enseignants veulent avoir plus de temps pour inculquer des informations, mais non seulement ça, aussi, c'est qu'ils veulent pas se faire poursuivre. Vous savez, aux États-Unis, les poursuites, parce que les enfants, ils vont peut-être se blesser, puis non, il faut pas qu'ils se tiraillent, puis etc. Maintenant, disons tout de suite qu'on est contre la violence dans les écoles. Là, on parle pas de ça ici, absolument, absolument contre. Mais il y a même une directrice d'école primaire qui a interdit les enfants de jouer à tag. Parce que ça peut facilement glisser à coups, tu sais, c'est des coups de poing, puis on peut se frapper au lieu de juste toucher doucement l'autre, puis s'enfuit. Donc, elle a carrément enlevé ça, la tag. Maintenant, oui, on est contre l'intimidation puis la violence dans les écoles et à la maison, évidemment. Mais on redécouvre, imaginez, on redécouvre les bienfaits des jeux de tiraillage. Écoutez bien ceci. Et les jeux de lutte à la maison. Tu sais, quand tu fais une clé de tête, là, tu prends ton enfant comme ça, là, comme ça, puis tu fais ce qu'on appelle un noogie. Je pense. Tu sais, tu frappes la tête comme ça. Là. Hey, noogie, ça vient de l'hébreu. OK? Puis ça veut dire infliger. Infliger la douleur. Tu sais, quand tu fais ça. Eh bien, imaginez-vous qu'il y a des avantages à faire ça. Je suis assez content, là. Ça me fait du bien. Je me défoule ce matin. Tu sais, tu sais, maman qui dit arrêtez, là, arrêtez. Ben non, non, je contribue à l'éducation de mes enfants. Là, vois-tu, tu es pas mal plus impliqué que tu pensais dans l'éducation de tes enfants, hein? Et regardez bien ça, on a découvert les avantages et les bienfaits de se chamailler, se tirailler avec les enfants. Il y a même un livre là-dessus, il y a un livre pour tout aujourd'hui. Il y a un livre qui s'appelle « The Art of Roughhousing ». L'art de se chamailler, ou c'est ça, l'art des bousculades. Écrit par Anthony DeBenedette et Larry Cohen, ils font ressortir les bénéfices du tiraillage, puis en passant, ils appuient ça sur des recherches. Il dit, au lieu d'enseigner la violence et l'impulsivité à nos enfants, le tiraillage à la maison nous aide en fait à développer leur intelligence. Imagine-toi là, tu tires avec ton enfant, tu tirailles avec ton enfant, il va être plus intelligent. Mon ami, c'est incroyable comment j'ai investi dans l'éducation de mes enfants. J'ai eu tout un impact. Et ça développe aussi l'intelligence émotionnelle, quelque chose qui est de plus en plus important. Vous savez, tu t'en vas faire une demande d'emploi aujourd'hui, puis on va te demander ça, surtout dans les postes de cadre. On va te demander quel est ton quotient émotionnel. On va faire des évaluations, des questionnaires, des formulaires que tu pourras remplir pour ça, parce qu'on veut découvrir ça, parce que 85% des cadres qui ont des diplômes gros comme ça, qui se font mettre à pied, c'est une question d'attitude et relationnelle. Donc, on veut mesurer le quotient émotionnel. Eh bien, imagine-toi te chamailler avec douceur. Avec douceur, avec tes enfants, contribue à faire augmenter l'intelligence émotionnelle. Et c'est incroyable. Ça rend les enfants plus aimables. On penserait que ça les rendrait plus violents. C'est le contraire, ça les rend plus aimables. Ça développe l'éthique. Ça les met en forme. Ça les rend plus joyeux. Imagine-toi donc. Alors, lorsque ta femme te dit, arrête de tirailler et de chamailler avec les enfants, là, ben, tu lui dis, bien écoute, chérie, je suis en train de contribuer vraiment à son éducation. Puis tu as absolument raison. Là, tu as des données, tu as une recherche qui l'appuie. Se chamailler avec les enfants développe leur capacité de résilience, c'est-à-dire cette capacité de s'adapter face au stress. Ça développe leur capacité de se relever après un échec, puis de réessayer, puis on réessaye. Ça donne aussi l'apprentissage de s'ajuster après l'imprévu. C'est une bonne façon d'apprendre à l'enfant que pour gagner, il faut travailler fort et puis il faut apprendre de nos erreurs. Des études ont même démontré qu'en jouant avec les enfants et en se tiraillant avec eux, ça les aide à avoir de meilleures notes à l'école. Incroyable! Se chamailler avec eux développe aussi leur sens de moralité et plusieurs recherches ont été effectuées à ce sujet-là. Jouer avec ses enfants contribue donc énormément à leur éducation. Ça nous rapproche, ça nous unit, c'est excellent. Puis tu sais quoi? Ça demande du temps. Ça demande du temps. Puis effectivement, oui, vous te faites attention, parce que des fois, oui, tu peux te blesser, c'est sûr. Moi, je me rappelle, je m'amusais avec mes enfants, puis je couchais sur le lit, puis j'avais mes deux pattes dans les airs comme ça, puis les enfants couchaient, essayaient de faire l'avion, j'avais juste les deux pieds sur leur ventre, puis ils étaient couchés sur moi, puis il fallait que je fasse ça de même, tu sais. J'ai commencé à faire ça avec mes petits-enfants. Fait que là, je suis couché dans le lit, là, puis les deux pattes dans les airs, puis l'enfant est couché, puis il essaye, là, tant bien que mal, sans toucher à rien, couché là, plané, là, sans haut. Bien, quand papa le fait, c'est pas trop pire. Oui, il y a eu des shots qui étaient... Le moment n'était pas là, mais il y a eu des shots, c'était comme... C'est sûr que... Mais eux autres, parce que papa s'en va, puis là, les enfants disent, « Hey, on joue-tu à ça? Papa n'est pas là! » Mais ma petite fille, qui était toute big, toute petite, elle fait ça avec son frère. Puis là, j'ai entendu crier en haut et tout ça, part à courir, puis tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis c'est ça, c'est qu'ils ont essayé de faire ça avec mon gars, mais finalement, il est parti à revoler l'autre bord. Puis il y avait une porte en vide, puis ah, mon ami, c'est toute une histoire. Oui, on va faire attention, c'est évident. Mais on veut jouer avec eux autres, c'est super. Ça développe l'unité du bon temps. Donc, non seulement on contribue sur le plan éducatif, mais on grandit avec eux, ils grandissent avec nous, puis c'est super pour l'enfant. Alors, première activité, on fait des projets ensemble, des activités ensemble, travaille ensemble. Deuxième activité, on veut jouer avec eux autres, évidemment. Puis ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est pas juste la qualité, c'est la quantité, ça prend du temps, ça. Fait qu'il faut que tu réserves ça, ces moments-là avec tes enfants. Troisièmement, évidemment, Là, tu veux lire la parole de Dieu avec eux. Tu veux mettre le Seigneur au centre de ton foyer. Et moi, j'ai un passage à vous lire ici dans Éphésiens. Alors, si vous avez votre Bible avec vous, si vous voulez tourner dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 6. Verset 4. Et ce passage-là, ce verset-là, était révolutionnaire à l'époque. On parle d'un contexte de la ville d'Éphèse où c'était dans le contexte de l'Empire romain. Et c'était révolutionnaire dans le temps, là. Et on voit comment le christianisme a eu tout un impact sur la société, là. Il y a des choses qu'on prend pour acquis aujourd'hui, mais c'est le Seigneur qui a emmené ça tranquillement à l'Église, qui a influencé les mœurs, les coutumes, les valeurs de l'époque. Alors, Éphésiens chapitre 6, verset 4, qui dit ceci, on va se limiter qu'à ce verset-là pour le moment. Quant à vous, Père, donc, quant à vous, Père, ben oui, évidemment, ça s'adresse aux parents, aux deux, mais particulièrement aux pères. Quant à vous, Père, Papa, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Vous voyez, là on parle, bien, ça dit certaines choses ici. Premièrement, il faut retenir que c'est révolutionnaire. Révolutionnaire ce passage-là. C'est dans un contexte de l'Empire romain. Puis c'était difficile d'imaginer un père, imaginez ce qu'on prend pour acquis aujourd'hui, qu'un père aime ses enfants. Dans ce temps-là, les enfants n'avaient pas plus de valeur que des esclaves. C'était au même rang. Selon la loi romaine de patria potestas, un père a pratiquement droit de vie ou de mort sur les membres de sa famille. Non seulement sur les esclaves, mais sur toute sa maison. Il peut mettre tout le monde dehors s'il voulait, vendre tout le monde comme des esclaves, même mettre tout le monde à mort sans avoir de compte à rendre à personne. Un enfant nouveau-né était placé au pied de son père, puis lui devait décider s'il vivait ou pas. S'il voulait avoir une fille, s'il voulait avoir un gars, s'il ne voulait pas avoir de fille, il pouvait décider de la laisser là, de l'abandonner, puis qu'elle mourrait. Mais ici, le Seigneur va tout à fait à l'encontre des valeurs culturelles de l'époque. Et ça, c'est Dieu va renverser. Imaginez, là tu vas dire, ouais, mais ça, il me semble, ils sont pas mal, sont en retard, et tout ça. Attention, l'Empire romain, c'était le plus grand empire qu'il n'y avait pas, grande puissance, la plus grande puissance qu'il n'y avait pas, ultra moderne pour l'époque. Et voici ce que la société la plus moderne a contribué, c'est que les familles n'avaient pas beaucoup de valeurs. C'est le Seigneur, l'Église, et le Seigneur, à travers son Église, qui a emmené de nouvelles valeurs, a fait changer le courant, puis il a dit, non, papa, aime tes enfants, fais attention à eux. Puis regardez ce que ça dit, n'irritez pas. Donc, quand on parle d'irritation, on parle vraiment des émotions ici. Mon ami, tu n'aurais jamais imaginé ça à l'époque. On parle ici des émotions, faire attention à leur cœur, prendre soin de leur cœur. Sois attentif, sois préoccupé de ne pas décourager ton enfant. N'irrite pas tes enfants, dit le Seigneur. Prends-en soin. On parle du cœur de l'enfant ici. Puis ça, c'est révolutionnaire. Le Seigneur veut que l'on prenne soin, pas juste du comportement de l'enfant, mais aussi de prendre soin de son cœur. Et vous savez quoi, ce qu'on voit dans les Écritures, du début à la fin? On voit que papa a un rôle très, très, très important au sein de son foyer. Il est le pasteur, le berger du foyer. C'est la mission que le Seigneur lui confie. Le Seigneur dit, fais attention pour ne pas décourager ton enfant. Puis là, on se demande comment ne pas décourager nos enfants, comment ne pas les irriter. Bien, qu'est-ce qui fait irriter nos enfants? Et premièrement, le favoritisme. Tu sais, quand tu commences à faire du favoritisme entre les enfants, ça décourage les enfants. Deux, en exigeant d'eux des résultats plus que raisonnables. Trois, ne jamais les complimenter, toujours critiquer, vous savez. Quelqu'un a sorti un sondage, un moment donné, un sondage, une étude qui avait été faite, qui disait qu'on critiquait 10 fois plus qu'on complimentait. Je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais ça nous rappelle l'importance de faire attention, pas toujours être critiqueux, mais de souligner les bonnes choses de nos enfants, faire attention. 4, en refusant de faire des sacrifices pour eux. 5, se servant de l'amour comme un instrument de récompense ou de châtiment. Vous savez, il y a des gens encore aujourd'hui qui sont blessés, encore aujourd'hui, maintenant qu'ils sont adultes, puis sont parents eux-mêmes. Ils me partageaient ça. Et comment les parents, ils ont souvent critiqué tout ça et se servaient de l'amour ou pas pour manipuler leurs enfants. Et ça marque, ça. 6, en les maltraitant physiquement, évidemment, ou verbalement. Maintenant, il faut faire attention avec les paroles aussi qu'on va dire. Ce n'est pas pour rien que dans Éphésiens 4, 29, qui est justement dans la même lettre, si vous êtes là encore, vous avez juste à tourner au chapitre 4, Éphésiens 4, 29, qui dit ceci, « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et à transmettre une grâce à ceux qui les entendent. » C'est vrai pour chacun d'entre nous dans l'Église, chacun d'entre nous mutuellement les uns les autres. C'est vrai pour toutes nous autres, mais c'est vrai aussi pour nos relations avec nos enfants, le rôle du père avec ses enfants. Il faut s'abstenir de dire des paroles blessantes et humiliantes. Il faut s'abstenir de dire, par exemple, voici quelques exemples de paroles qui sont blessantes. Pourquoi tu n'es pas comme, si tu compares, pourquoi tu n'es pas comme ta sœur? Attention, va dans ta chambre, tu es dans le chemin, passe-toi. Tu es arrivé à ton point, là, tu sais, l'expression accouche. Arrête de pleurer, tu es correct, là, fais pas de broyard. Pourquoi tu n'es pas capable de comprendre? Arrête, tu me fais honte. Tu donnes vraiment le pire exemple. Arrête de m'achaler. J'ai pas de temps pour toi. Fiche-moi la paix. Arrête, sinon je vais te faire pleurer pour vrai. J'en peux plus avec toi. Moi, j'abandonne. Bien, moi aussi, je te hais. Les paroles sont très dures pour les enfants. Ça, c'est des paroles qui vont irriter les enfants. Décourager même. Alors, le verset dit, « N'irrite pas, mais... » Enseigne-les, instruis-les. Alors, élève-les. Comment on élève? Comment on élève les enfants? Comment on les éduque? Bien, on enseigne, c'est ça qui est écrit ici. On enseigne quoi? Bien, premièrement, on veut leur enseigner l'Évangile, c'est-à-dire la justice et l'amour de Dieu. On veut vraiment que l'Évangile soit au centre de notre foyer et que les enfants, très jeunes, on commence à leur exposer l'Évangile. Nos enfants ont besoin de nous entendre, leur présenter l'Évangile. Et on a besoin de le faire régulièrement. Parce que ce n'est pas parce que tu vas faire une fois qu'ils vont s'en souvenir. Absolument pas. C'est quelque chose que tu dois répéter régulièrement. Si l'Évangile nous passionne, on va en parler régulièrement. J'ai bien aimé ce que Don Carson disait. Il parlait de ses étudiants. Don Carson, pour ceux qui sont nouveaux, ne connaissent pas, c'est un enseignant aux États-Unis dans un séminaire en théologie. Puis, c'est un professeur. Là, il va parler dans le contexte de professeur avec ses élèves. Mais vous allez voir, le même principe revient. Il dit, reconnaissez que les élèves n'apprennent pas tout ce que vous leur enseignez. Ils ne retiennent certainement pas tout ce que je leur enseigne. Qu'apprennent-ils? Qu'est-ce que les élèves vont apprendre? Ils apprennent ce qui m'enthousiasme. Ils apprennent ce que je souligne. Ce à quoi je reviens constamment. Ils apprennent ce qui structure ma façon de penser. Je dois montrer la relation entre ma spécialité, dans le cas d'un professeur, et ce qui est fondamentalement central, et ne jamais perdre ma passion de vivre, de penser et de m'enthousiasmer pour ce qui doit rester au centre, et ça doit être l'Évangile. En d'autres mots, ça doit paraître chez nous que pour moi, ce qui prime, c'est l'Évangile. Non, mon enfant doit l'entendre, doit voir ma passion à l'endroit de l'Évangile. Alors, comme papa, c'est la même chose. On veut se passionner. On se passionne pour un tas de choses, ça peut être le sport, et c'est correct, c'est tout à fait beau, c'est le fun, c'est plaisant. Soit le football, le hockey, soit notre travail, et c'est bien de se passionner pour ces choses-là, c'est des bonnes passions. Mais nos enfants ont besoin de voir que ce qui nous passionne le plus, au-delà de toutes ces choses, ce qui nous enthousiasme le plus, et ce qui est au centre de notre vie, c'est l'Évangile. Alors, premièrement, on veut leur enseigner l'Évangile. La deuxième chose qu'on veut leur enseigner, on veut leur présenter le grand message de toute la Bible. Il y a un message, vous savez, il y a quoi? 40 quelques auteurs de la Bible. Ça traverse des siècles. Mais il y a un message central du début à la fin. Et le grand message rédempteur, l'histoire rédemptive de l'homme se trouve justement dans les Écritures. On veut leur présenter le grand message de toute la Bible, c'est-à-dire la création, la chute. Jésus qui vient sauver le pécheur. Après ça, la restauration, la nouvelle création, en fond. D'accord? Troisièmement, on veut leur présenter, on veut leur faire connaître Dieu. Et oui, un cours de doctrine à tes enfants. Oui, ça peut se faire simplement dans des mots très simples, ça peut pas être compliqué, mais tu veux enseigner à tes enfants à connaître Dieu, que Dieu sait tout, que Dieu entend tout. Déjà, tu veux enseigner l'omniscience, l'omniprésence, que Dieu est partout. Tu enseignes à tes enfants. Il y a des livres qui sont très adéquats pour ça, qui réussissent à bien enseigner au niveau de nos enfants. Et tu veux te servir de ces choses-là. Qui est Dieu? On veut leur enseigner l'amour de Dieu. On veut leur enseigner la crainte de Dieu. Dans Proverbe 14, qui dit ceci, « Celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » C'est Oswald Chambers qui disait ceci. Il dit, « Ce qui est fascinant avec la crainte de Dieu, c'est que si tu crains Dieu, tu ne crains rien d'autre. Alors que si tu ne crains pas Dieu, tu crains un paquet d'autres choses. Tu crains tout le reste. » Et c'est ce que laisse entendre le psaume 18. Écoutez bien le psaume 18. Il dit ceci, « Que ceux qui craignent l'Éternel le disent, oui, sa bonté dure éternellement. Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. L'Éternel est pour moi, je n'ai pas peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et me regarde mes ennemis en face. Et je regarde mes ennemis en face. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. » Maintenant, il n'y a pas quelque chose qui va nous faire peur, mais tu peux toujours revenir au Seigneur tout de suite et qu'il va te donner sa paix. Et à mesure que tu contemples sa présence, sa puissance, sa souveraineté, qui est au contrôle, tranquillement, la paix revient. Alors, dans ce sens-là, lorsqu'on a le Seigneur dans notre vie, lorsqu'on craint Dieu, lorsqu'on l'aime, ça a un impact sur notre façon de voir, notre vision du monde et des épreuves et des circonstances qui peuvent nous arriver. Cinquièmement, on veut leur enseigner à veiller sur leurs pensées. On veut leur enseigner à veiller sur leurs pensées. Parce qu'il y a un paquet de façons. Le monde va avoir une influence, l'école va avoir une influence. Maintenant, l'école va avoir de bonnes influences, mais il y a d'autres choses, des valeurs aussi qui sont contre les Écritures. Donc, tu veux constamment évaluer les pensées de tes enfants qui sont en train de se forger, puis corriger ce qui n'est pas correct, le remettre sur le droit chemin. Les amis aussi, les amis qui vont avoir des influences aussi. Alors, tu veux constamment veiller et tu veux leur apprendre à veiller sur leurs pensées, qu'ils développent du discernement. Six, on veut leur enseigner l'obéissance, évidemment. On veut leur enseigner aussi l'importance d'avoir de bons amis, se choisir de bons amis. C'est 1 Corinthiens 15 qui dit ceci, il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça a un impact. Ça a des incidences. Les relations qu'on a les uns avec les autres vont avoir une incidence sur nos valeurs, sur ce qu'on croit. Absolument. Et l'inverse est aussi vrai. Les bonnes compagnies édifient et assainissent les bonnes œuvres. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu se fait si insistante qu'on ait de bonnes relations, nous-mêmes comme adultes. Et d'où l'importance de l'Église, où on se fraternise, on est en communion les uns avec les autres, on s'investit dans la vie les uns des autres pour faire des disciples, on veut grandir, on travaille au perfectionnement des croyants afin qu'on devienne de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Cet investissement-là les uns entre les autres, c'est magnifique l'Église. C'est de toute beauté. Parce que c'est là qu'on veut s'entourer d'une compagnie qui a la même vision de grandir dans le Seigneur. Puis c'est la même chose avec les enfants. Regardez comment les Écritures vont revenir avec cette expression-là, les uns les autres dans les Écritures. Plus de 25 fois, on voit ça. Soyez serviteurs les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Ça, c'est l'image de l'Église. C'est ça qu'on doit faire comme enfants de Dieu. Et les jeunes enfants, les chrétiens qui viennent à l'Église, on leur souhaite la même chose, les moniteurs, monitrices du TEE qui s'investissent dans la vie de nos enfants. Voyez, soyez serviteurs les uns les autres. Portez les fardeaux les uns pour les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Priez les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. En d'autres mots, tu racontes tes luttes et tu encourages la victoire et à continuer. Édifiez-vous les uns les autres. Romains 14. Instruisez-vous les uns les autres, Colossiens 3:16. Exhortez-vous les uns les autres, dans 1 Thessaloniciens. Vous voyez, on va retrouver cela 25 fois dans les Écritures, les uns les autres. Imagine-toi les gens qui disent que l'Église, c'est pas important. Mon ami, hey, tu t'handicapes en partant. Tu te retires, tu te soustrais de quelque chose de magnifique que Dieu a instauré, et Dieu sait qu'on en a besoin. on veut se construire les uns les autres, s'investir dans la vie les uns des autres. Et c'est la même chose pour nos enfants. On veut qu'ils aient de bons amis qui vont les édifier, les encourager. Et c'est pour ça qu'on veut les emmener à l'Église. On veut avoir une part active à l'Église. On veut que nos enfants fassent partie des activités de l'Église. Pour ça, pour encourager, favoriser ces bonnes relations les uns avec les autres. Imaginez la richesse qu'on a d'avoir des bons amis dans le Seigneur. 8, on a besoin d'enseigner à nos enfants la vision biblique du mariage. Déjà, lorsqu'ils sont jeunes, ils ont besoin de voir ça. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Parce que, vous savez, dans le monde, là, on a toutes sortes de philosophies sur le mariage. Et d'ailleurs, c'est de moins en moins respecté. Mais pourtant, on veut leur donner cette vision qui est biblique du mariage. On voudra leur enseigner à bien gérer leur argent aussi. Comment Dieu voit la gestion de nos biens? Des choses, des principes importants pour nos enfants. Moi, je connais des familles qui donnent une allocation toutes les semaines, un certain montant aux enfants, et ils les encouragent à réserver une portion de cette allocation-là afin qu'ils le donnent à l'offrande. Et c'est pas grand-chose, mais ça leur enseigne un principe, de mettre le Seigneur à la première place. Et c'est vraiment bien de faire attention aussi. Une partie qui va en économie, d'autres parties pour tes activités. Et on a besoin d'enseigner ça quand ils sont jeunes. Prendre des bonnes habitudes. Parce qu'il faut se rappeler. Et on oublie ça, on néglige ça, qu'on est dans une guerre spirituelle. Au-delà de toutes les choses qui se passent, on est impliqué dans une guerre spirituelle. Dans son livre « Parents chrétiens, comment réussir », John MacArthur nous lance cet avertissement. Il nous rappelle que nous sommes dans un combat spirituel. Voici ce qu'il dit. Il dit « Parents, si vous manquez d'enseigner à vos enfants à craindre Dieu, le diable leur enseignera à haïr Dieu. » Si vous manquez de leur enseigner à veiller sur leurs pensées, le diable leur apprendra à cultiver des pensées corrompues. Si vous ne leur apprenez pas à obéir à leurs parents, le diable leur apprendra à se rebeller, à briser le cœur de leurs parents. Si vous ne leur enseignez pas à choisir soigneusement leurs camarades, le diable les choisira lui-même des camarades. Si vous ne leur apprenez pas à maîtriser leurs convoitises, leur diable leur montrera comment satisfaire leurs convoitises. Si vous ne leur apprenez pas à prendre plaisir en leur conjoint, le diable leur montrera comment détruire leur couple. Si vous manquez de leur apprendre à faire attention à leurs paroles, le diable remplira leur bouche de grossièreté. Et si vous négligez de leur enseigner à aimer leur prochain, le diable, lui, se chargera de leur apprendre à n'aimer qu'eux-mêmes. Et bon, il y a différents niveaux là-dedans, mais c'est un rappel solennel que nous sommes impliqués dans une guerre spirituelle. Et nous avons besoin de faire attention, de veiller sur nos enfants dans ce sens-là, de bien enseigner, bien instruire nos enfants. Alors, comme parents, nous voulons tout faire pour encourager nos enfants à grandir dans le Seigneur. On veut donc leur enseigner la parole de Dieu. On veut, à la maison, on veut lire la parole avec eux, les emmener à l'église, au camp des boulots, absolument. Et ce qui nous encourage, parce que parfois nos enfants vont vieillir puis ils font des choix et qui s'éloignent, vont s'éloigner de la foi. Ce qui m'encourage, c'est un passage dans Hébreux qui dit ceci, que la parole de Dieu est puissante. Ça dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Puis un autre passage dans Ésaïe 55 qui dit ceci, la pluie et la neige descendent du ciel, et n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en est de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Moi, c'est encourageant, ça, parce que tu vas donner la parole de Dieu à tes enfants. Moi, je me rappelle, une de mes enfants s'est éloignée à un moment donné. Elle s'est éloignée du Seigneur, s'est éloignée de l'Église et tout ça. Puis elle me dit ceci, elle dit, tu sais, papa, elle est revenue maintenant, gloire à Dieu, mais elle me dit, tout le temps que je m'étais éloignée, j'avais la parole de Dieu constamment quelque part qui était là. Oui, je voulais l'étouffer, je voulais pas l'entendre, je la tassais, mais de temps en temps, ça revenait, si bien qu'un jour, elle est revenue au Seigneur. Et vous savez, la parole de Dieu, c'est tellement puissant. Tu veux, pendant qu'ils sont jeunes, leur inculquer la parole de Dieu. On veut dans nos conversations à la maison vraiment donner le message des Écritures, avoir cette et tout dans tout ce qu'on fait, on veut faire tout ce qu'on fait, on veut le faire pour la gloire de Dieu. Et ça doit paraître sur la maison. Nos enfants doivent le voir, le capter ça. Donc, pour avoir un temps de qualité quantité, on fait des activités avec nos enfants. On joue avec eux, on lit la parole de Dieu avec eux, on les enseigne, les instruit dans la parole, on place le Seigneur au centre. Et on prie avec eux dernièrement. On veut prier ensemble. On veut prier pour eux autres, évidemment. Mais on veut prier avec eux autres. Nos enfants ont besoin de nous entendre prier. Quelqu'un dans ma famille a pris une belle habitude. Et moi, on faisait des choses différemment, mais j'ai trouvé ça tellement génial. Moi, j'aurais aimé faire ça avec mes enfants. Je trouve ça génial. Et je pense, j'avais déjà partagé que le soir, juste avant de se coucher, il va passer du temps avec son enfant, puis il va lui demander quelle a été la plus belle chose qui s'est passée aujourd'hui. Puis là, tu laisses l'enfant, il laisse l'enfant ouvrir son cœur, lui exprimer tout ce qu'elle a vécu, tout ça. Puis après ça, il lui demande quelle a été la pire chose qui te soit arrivée aujourd'hui. Et là, l'enfant, ça donne une belle occasion d'avoir un temps de qualité, quantité. Et là, l'enfant ouvre son cœur, lui exprime sa frustration, son fardeau, ce qu'elle vit. À son niveau, elle partage ce qu'elle vit, son fardeau. Et c'est une belle occasion de pouvoir se coller à l'enfant et prier pour ce fardeau-là qu'elle vit, qui est gros. Ils vivent des choses, hein, vous le savez, les enfants arrivent à la maison, ils vivent des choses, c'est très gros pour eux. Ils ont besoin de nous voir prier pour eux, pour ce qu'ils vivent. Et aussi, le contraire est aussi vrai. Ils ont besoin de voir, peut-être qu'on ne pourra pas tout donner les détails, mais des fois, ils ont besoin de voir juste notre fardeau, de dire, écoute, ça ne va pas tellement bien, mon travail, veux-tu prier pour moi ou avec moi? Et l'enfant prend part à la prière, et on prie mutuellement l'un pour l'autre. Et ça, c'est très riche d'avoir ce temps de prière-là. Alors, on veut passer du temps de qualité, quantité avec nos enfants, en faisant toutes sortes de choses avec eux, des activités. On veut jouer avec eux, prendre du temps avec eux pour jouer. On veut certainement enseigner la parole de Dieu. Et faites-le, les papas. Là. Je sais que parfois, maman, elle peut être meilleure que nous à raconter des histoires, des Écritures. Mais ça vaut la peine de le faire. C'est important que les enfants voient papa vraiment lire les Écritures à la maison, enseigner les Écritures. Et on veut prier avec eux autres. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. C'est toute une belle mission, tout un privilège que le Seigneur nous donne de pouvoir nous investir dans la vie de nos enfants. Donc, bonne fête encore. On va prier pour vous autres. Peut-être que les papas ici pourraient se lever. Ceux que vous avez levé la main là, ce matin, là. Levez-vous, on veut prier pour vous, d'accord? Alors, tous les pères, levez-vous là. On veut prier pour vous, papa. Vous avez une belle mission que le Seigneur vous a confiée. D'accord? Eh bien, Seigneur, on veut certainement te remercier parce que toi, tu es le Père parfait. Tu es le Père parfait, le Papa parfait. Et on veut te remercier, Seigneur. Quel beau modèle que nous avons en toi. Tu n'as jamais fait d'erreur, tu ne fais pas d'erreur. Seigneur, on t'aime, on te remercie parce que tu nous as aimés lorsqu'on n'était pas aimables. Lorsqu'on était même détestable, tu as été patient avec nous, Seigneur. Alors, on te prie, j'aimerais te prier pour chacun d'entre nous, les papas qui sont ici ce matin. On est loin d'être parfaits. On a nos failles, nos fautes, on a nos péchés, nos luttes. Et nous arrivons avec nos faiblesses. Mais en même temps, Seigneur, on se rappelle la puissance du Saint-Esprit qui nous accompagne dans notre rôle de papa. Merci de nous aider. Merci de nous donner ta parole qui nous guide, qui est une lumière sur notre sentier. Et on peut toujours revenir aux Saintes Écritures pour savoir quelle direction prendre. Tu es là, Seigneur. Tu nous guides par ton esprit. Alors, on te prie que tu fasses du bien au papa de l'Église, que tu les accompagnes, que tu leur accordes cette grâce, cette sagesse dont ils ont besoin pour s'investir dans la vie de leurs enfants. Et ça commence d'abord et avant tout avec notre relation envers toi. Alors, ce matin, on veut se redonner à toi. On veut se reconsacrer à toi. comme homme et aussi comme papa. Alors, on veut se coller à toi, Seigneur, on veut s'approcher de toi. Et on te remercie à l'avance, parce qu'on ne peut pas se tromper lorsqu'on met le Seigneur à la première place dans notre vie. Alors, merci à l'avance pour ce que tu vas faire dans nos familles. Donne-nous la sagesse, comment avoir des relations, entrer en relation avec nos enfants, quel que soit leur âge, Seigneur. Nous voulons être des modèles. Nous voulons être des pères qui aiment Dieu et qui aiment sa famille. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, les frères.